Bienvenue dans Infirmière de Novice à Expert, le balado qui accompagne les étudiantes en soins infirmiers et les jeunes infirmières dans leur parcours professionnel.
Nous sommes Sylvie
et Karine,
deux enseignantes passionnées par la formation des infirmières de demain.
Dans chaque épisode, on explore les défis, les avantages et la réalité de la profession infirmière.
Que vous soyez encore étudiante ou que vous débutiez votre carrière, nous sommes là pour vous guider et vous inspirer à devenir une experte dans votre pratique.
Alors, mettez vos écouteurs,
prenez un café et c'est parti pour un nouvel épisode de Infirmière de novice à experte.
Bonne écoute!
Bonjour, Karine!
Salut, Sylvie! Comment tu vas?
Ça va bien et toi?
Ça va bien, ça va bien. On est accroché.
On est accrochés par notre nouvelle session. Puis, donc, comme sujet, ça me tentait qu'on parle de mythes qu'on a au niveau des soins infirmiers. C'est des choses qui sont véhiculées, qui sont. Ils sont-tu vrais? Ils sont-tu pas vrais? Essayer de voir que la réalité peut-être a changé un peu depuis les dernières années, puis des choses qui sont carrément fausses aussi.
Mais tu sais, les mythes, ça part tout le temps un petit peu d'une parcelle de vrai, mais c'est souvent exagéré puis mis dans un certain contexte, alors que dans le fond, ce contexte-là représente pas nécessairement la réalité de nos soins en 2025, là, définitivement.
Oui. Ou des fois, ça peut être le jeu du téléphone, hein? Hein? C'est qu'on le dit d'une personne à l'autre, puis à un moment donné, ça devient comme une réalité. Puis avec les médias sociaux, je pense que ça empire les mythes. Donc, on dirait que parce qu'on dit quelque chose, ça devient comme une vérité. Alors que si on creuse un petit peu, on se rend compte que c'est pas vrai du tout.
Ah, ça, absolument. Puis là, tu as dit les réseaux sociaux, puis on dirait que j'ai pensé à un autre mythe qu'on n'a pas listé avant le podcast, Sylvie, dans notre préparation, puis j'ai le goût de commencer avec celle-là.
Vas-y, vas-y, on va essayer de déconstruire ça.
Dans les réseaux sociaux, là, on voit vraiment beaucoup de vidéos comiques, entre autres, du mythe qui renforce le mythe. Une infirmière, c'est fatiguée, c'est en burn-out, et c'est brûlée de son travail. Puis pour moi, oui, c'est vrai qu'il y a des infirmières qui sont fatiguées, mais est-ce que ça représente la majorité d'entre nous? J'ai comme l'impression quand même qu'il y a encore des gens passionnés et en forme malgré notre réseau de santé et tout ça, là.
Oui, puis ça va dépendre aussi du milieu dans lequel tu vas travailler. Tu sais, tu as des milieux qui sont moins actifs, dans le genre où, tu sais, il y a moins de patients, il y a moins de techniques, il y a peut-être un peu moins d'évaluations rapides à faire. Donc, à ce moment-là, bien, il y a plus de relations d'aide, donc on prend plus le temps avec les patients. Donc, il y a ça qui fait en sorte aussi que ça peut aussi diminuer le mythe qu'une infirmière est toujours fatiguée, mais ça peut être également pas juste les soins infirmiers, ça peut être aussi tout ce qu'on a autour de notre vie. Tu sais, on vit à 150 000 à l'heure. On a notre travail, on a les amis, on a les activités, on va en voyage. Donc, on regarde un agenda d'une jeune infirmière ou même d'une étudiante, puis ils ont des agendas de premier ministre. Des fois, c'est peut-être à cause des parents au début, quand ils étaient au primaire, secondaire, où on leur laisse jamais de lousse, mais ils ont appris à avoir un agenda de premier ministre. Donc, est-ce que c'est juste le travail qui fait qu'ils sont fatigués ou c'est l'ensemble de l'œuvre?
C'est vrai qu'on se mène dans un monde où est-ce que d'être surchargé comme ça de plein d'activités, c'est valorisé. Tu sais, quand tu regardes justement sur les réseaux sociaux, on a l'impression que plus on est occupé, plus on va être heureux, plus on va être épanoui et tout ça. Mais à un moment donné, des fois, ben, ce rythme-là est difficile à soutenir.
Effectivement. Donc, puis, tu sais, de rien faire, c'est une activité en soi. Mais on verra pas ça sur les réseaux sociaux où on va le voir des fois un peu, des fois en vacances, mais là encore, si on regarde les vacances, c'est « Ah, oh, je suis allé voir ci, je suis allé manger là, je suis allé voir telle affaire. » Donc, ça roule tout le temps.
Fait que c'est pas nécessairement un enjeu d'être infirmière ou pas. C'est vrai, par contre, qu'on a certains facteurs de risque. Je pense qu'on a un milieu de travail qui est quand même fragile, vulnérable au surmenage, puis à la brûlure de compassion, puis ces choses-là. Mais ça devrait pas être considéré comme la norme. En tout cas, pour moi, ça, c'est vraiment important. que une infirmière, c'est fatiguée et surmenée? La réponse, c'est non. Une infirmière, ça ne devrait pas être surmenée ou surchargée. On ne devrait pas dire qu'on est quasiment tous en burn-out. Ce n'est pas la normalité, ou du moins, c'est vraiment pas ça que j'ai le goût qu'on aspire à, tu sais.
Non. Puis en même temps, ben, il faut aussi apprendre. T'sais, c'est sûr que les soins infirmiers, c'est comme toujours un peu une boîte à surprise parce qu'un patient qui va décompenser, ça ne peut pas se prévoir. T'sais, il faut. Mais lorsqu'on fait notre organisation de travail, ben, on va aussi se garder de la ventilation pour dire, ben, s'il arrive quelque chose, on va être capable de pallier. Mais oui, on a peut-être une charge de travail un peu plus grande quand on est jeune, donc jeune infirmière. Je pense que le réseau a peut-être son lot à faire là-dessus, parce que quand tu commences, tu as la même charge qu'une fille qui ça fait 20 ans. Donc, mais avec le temps, on développe la rapidité, on développe des façons de faire qui fait qu'on se dégage du temps, puis on est moins fatigué.
Il y a aussi la culture du département dans lequel on est. Et puis ça aussi, quand c'est normalisé sur le département d'être fatigué, que les TSO sont normalisés, que c'est normal que tu... Puis là, ça va dans nos autres, je vends un punch pour un autre mythe, là. Je suis en train de faire ça. Mais un mythe qui est, c'est normal de ne pas prendre tes pauses, puis c'est normal de finir plus tard. Quand c'est sur un département où est-ce que ça, c'est valorisé ou que c'est considéré comme la normalité, ben c'est sûr que tu es plus à risque là d'être surmené puis tout ça, mais c'est pas la culture de tous les départements. Il y a des départements très bienveillants, équilibrés dans cette charge de travail-là. Des fois, il faut juste magasiner un peu pour le trouver. Puis pas accepter d'être sur un département comme ça. Si t'es pas bien dans un département, c'est parce que c'est pas le tien. Puis on magasine, c'est tout. Je pense que c'est un de nos privilèges en tant qu'infirmière de magasiner.
Absolument. Mais tu sais, aussi quand on est débordé, si on, mettons, on y va avec le mythe on finit toujours 2 heures plus tard que notre quart de travail, mais il faut aussi être conscient qu'on doit demander de l'aide. Donc, surtout en début de pratique, puis pour des plus vieilles, ben, c'est d'aller voir les plus jeunes puis dire, as-tu besoin d'aide? Avec ça, ben, ça devient une belle culture de département qui va faire en sorte qu'il va y avoir moins de roulement de personnel. Moins il y a de roulement de personnel, plus on devient ancré dans une routine où ça va être beaucoup plus agréable et plus facile, beaucoup moins de burn-out aussi, mais il faut être bienveillant entre nous, autant les jeunes que les vieilles. Puis ça va se faire par les deux côtés, autant par les vieilles qui vont aider les jeunes, puis il faut se rappeler qu'on a déjà été une jeune infirmière sur un nouveau département, puis c'est jamais facile. Mais les jeunes doivent aussi faire leurs demandes, parce que des fois, ils veulent, oh non, non, je suis capable, je vais le faire tout seul, puis non, il faut que j'apprenne à m'organiser tout seul. Oui, mais tu n'es pas obligé de le faire pour demain matin. Hein? Donc, de se faire aider, donc, va aussi aider à diminuer ton risque de burn-out.
Oui. Donc, c'est pas une normalité. C'est pas parce qu'il y a des vidéos drôles sur TikTok, Instagram et tout ça d'une infirmière brûlée qu'on doit considérer que nous sommes tous dans cette situation-là. Puis c'est un signal d'alarme. Si tu te sens brûlée comme ça, puis que tu parles négativement des patients, que tu as des signes de surmenage, là, donc de la difficulté à te lever avant d'aller travailler, de faire des crises d'angoisse avant d'aller travailler, c'est un red flag, là. Va chercher de l'aide. C'est pas une normalité.
Oui, puis tous les hôpitaux ont des centres d'aide aux employés. Donc, y aller, donc de faire cette première démarche-là, c'est gratuit, puis on va l'utiliser. Mais aussi peut-être de regarder votre agenda. T'sais, si je regarde mon agenda, puis je fais 5 quarts de travail, puis je me suis rajouté 2 temps supplémentaires, pas obligatoires. Et en plus de ça, ben j'ai 3 soupers. J'ai 2 fêtes, puis là, je vais aller faire du hacking, puis je vais aller faire du canot, puis je vais aller. Puis là, vous regardez votre agenda. Ça se peut qu'aussi l'agenda soit un peu trop chargé. On est dans l'instantanéité, dans la rapidité. On veut tout faire, on veut rien manquer. Mais des fois, de prendre le temps d'arrêter puis de regarder ça, va faire en sorte qu'au niveau équilibre, ça va peut-être être plus facile. Puis vous ne tomberez pas en burn-out non plus. Ou en tout cas, vous allez être capable de voir arriver ces signes d'alarme-là rapidement pour être en mesure de faire des changements dans la vie. Puis là, on parle juste d'un agenda d'une jeune qui n'a pas d'enfant. qui a peut-être un conjoint ou un chum ou une blonde, mais qui n'ont pas d'enfants. Fait qu'on rajoute les enfants à travers ça. C'est, oui, un beau cocktail explosif. Faut faire attention.
Ça va vite, hein? Alors,
Absolument.
on y va avec notre deuxième, troisième mythe, là, parce qu'on a fait quasiment deux. Si tu as peur du sang, tu n'es pas à ta place en soins infirmiers. Ça, j'entends vraiment souvent, là, des étudiants qui me demandent, Karine, moi, j'ai des aiguilles, là, c'est ma hantise. Je pense que je ne peux pas être infirmière. Il y a du monde qui m'écrit sur TikTok pour m'en parler. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Sylvie? Est-ce qu'on peut être infirmière même si on a peur des aiguilles?
Absolument, on peut être infirmière, même si on a peur des aiguilles, on va tranquillement se désensibiliser à ça. Le fait de recevoir une prise, mettons une injection, parce que tu t'en vas faire une prise de sang, c'est toi qui la reçois, versus nous qui allons la faire, c'est différent. Okay? Mais c'est de tranquillement se désensibiliser, mais aussi d'en parler à tes profs. Quand tu arrives en stage, pour leur dire, ben moi, je pense que tu sais, j'ai peur du sang, puis je vais peut-être m'évanouir, on va faire attention. Tu sais, fait que tranquillement, on ne dira pas, vas-y tout seul, puis on va se ramasser à te ramasser comme un autre patient. Mais j'en ai connu plein dans ma carrière qui avaient peur du sang, puis qui ont fini leur cours de soins. Mais c'est sûr qu'ils n'iront pas travailler chez Emma Québec, puis ils n'iront pas travailler au bloc opératoire. Oui, mais ils réussissent à installer des solutés pareilles. Puis c'est, tu sais, au niveau du sang, là, si tu n'as pas de pansement, puis tu as juste des injections, c'est correct. Puis sinon, ben, tu vas aller trouver un milieu où il n'y en a pas de prise de sang. Ça existe. Tu peux travailler en santé mentale, on en voit pas mal moins de prise de sang, puis de sang de façon générale.
Puis dans la formation, c'est sûr qu'ils vont être exposés à ça. Il faut que tu apprennes à faire des injections. Donc souvent, c'est fait même dans la première année. Puis comme tu dis, c'est une exposition qui est progressive, là. C'est pas du jour au lendemain que tu fais des transfusions sanguines avec tes patients. Puis l'exposition, je pense qu'elle est importante là-dedans. Plus ça va aller, moins ça va être quelque chose qui te fait sentir pas bien. Choisir nos milieux, vraiment, puis... on s'y habitue, je pense, réellement. Moi, c'est des sécrétions. Tu sais, j'ai bien de la misère avec les sécrétions de gorge, là, puis des aspirations de trachéo et tout. Ben, plus t'en fais, moins t'as cette difficulté-là, puis ton malaise, il va disparaître. Il faut juste s'exposer, un petit peu comme tout le reste dans la vie. Quand on a un stress, plus on s'expose par microdose, ça disparaît. Mais on peut être infirmière. J'en ai vu plein, comme tu dis.
Ben oui,
Les
puis
statistiques vont dans ce sens.
ça peut être des peurs de n'importe quoi, hein? Toi, regarde, vois-tu, c'est les sécrétions. Moi, c'est plus ou moins, ça ne me dérange pas tellement. Mais moi, c'est les yeux. Je ne suis pas capable de voir, mettons, un médecin faire une extraction de cataracte.
Oh, ouais, j'avoue que ça.
Tu sais, puis je viens là, tout tremble, puis j'ai chaud, puis ben, j'avais la chance d'aller travailler dans un bloc opératoire. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, je suis pas allée parce que je me sentais pas capable. Donc, mais j'avais, ça, c'est un choix que j'ai fait. Mais j'aurais pu continuer, peut-être me désensibiliser à ça ou de trouver d'autres façons. Mais on a tout un petit peu un dédain de quelque chose en soins, puis c'est bien correct. Il y en a que ça va être les pieds, les ongles d'orteil, ça peut être à peu près tout, là.
Puis si jamais j'ai un soin, tu sais, je ne sais pas si c'est dans mon quotidien de faire ce soin-là, mais par exemple, justement, je ne sais pas, moi, mon dédain ou peu importe, c'est l'estomie et ces choses-là. L'estomie, c'est un intestin qui sort au niveau de la paroi abdominale où est-ce que les selles vont sortir. Tu sais, je peux demander de l'aide si je ne suis pas sur un département de gastro, parce que là, on parle de département, mais je peux demander à ma collègue là, de venir m'aider pour un soin dans lequel je me sens moins confortable et tout ça, c'est possible. Une fois que je suis infirmière, c'est un de nos privilèges aussi de justement choisir le milieu ou quasiment là, le milieu où est-ce que je vais aller travailler, un département qui me ressemble dans mes valeurs, dans mes intérêts et ben finalement dans mes dégoûts aussi.
Eh bien, oui. Ça va faire partie des choix qu'on va faire, effectivement.
Si tu as peur atroce du vomi, ben la gastro, c'est peut-être pas
En bonne place, puis l'urgence non plus.
oh, l'urgence, surtout l'urgence, je pense, l'urgence pédiatrique.
Ouais,
Peut-être
c'est ça.
choisir une autre.
C'est ça. On va pas là. Les selles, la même chose, de tout ce qui est gastro.
Ouais.
Donc,
En
mais
même temps,
c'est pas
être de
agréable
peur du
pour les gens
vomi,
non plus.
non, mais non, personne n'aime ça le vomi, on s'entend. Même si, mettons que c'est quelque chose qui te fait sentir mal, mais que tu veux vraiment travailler en pédiatrie puis à l'urgence, je pense que c'est possible. Tu vas t'exposer, tu vas trouver tes trucs, pour être moins malaisé dans ces moments-là, mais tout ça, là, je pense que c'est un mythe qui ne s'applique pas. C'est juste, on se demande comment on va faire. Je pense que c'est plus une anxiété qu'un mythe, pas un mythe, mais une réalité.
Puis les masques maintenant, c'est comme reconnu, hein? On n'a rien qu'à dire qu'on a un petit virus, puis on peut mettre un masque. Puis le masque avec des petites gouttes de vanille dedans, là, c'est bien, bien efficace pour enlever les odeurs. Parce que
Oui,
ça,
c'est
le
vrai.
problème, c'est pas la vue de, c'est l'odeur qu'il y a. Donc, fait que de se trouver des trucs pour cacher cette odeur-là.
Absolument. On s'en va avec un prochain mythe?
Oui, ben, est-ce que les étudiantes n'ont pas vraiment d'impact en stage?
Ouais.
Ils
En
sont là juste par parure, puis ils dérangent.
ils dérangent, sont dans le chemin, puis font pas grand-chose en stage ou ils font juste des devoirs. Moi, j'ai déjà des étudiants qui m'ont dit, oh, mais Karine, ce qu'on fait, l'infirmière ne le ferait pas nécessairement, absolument pas ce que tu es en train de faire présentement. Un, ça dégage l'infirmière de faire certaines tâches. Tu as un impact là-dessus, mais en plus, tu vas apporter tes observations à l'infirmière. Puis des fois, vous avez des yeux différents en tant qu'étudiant infirmier, là, moi, je trouve, là. Ils voient des choses parfois qui sont passées entre certaines mailles parce que l'infirmière est surchargée, parce qu'elle a plusieurs patients, puis elle n'a pas eu le temps de regarder certaines choses. Nos étudiants ont vraiment des impacts dans le parcours clinique des patients, je trouve.
Absolument. Puis des fois, même de des infirmières qui sont moins à jour. T'sais, même si on doit se mettre à jour régulièrement, ben, t'sais, lorsqu'on amène nos étudiants en stage, c'est vraiment avec t'sais, les dernières façons de faire des évaluations, de faire des surveillances, tout ça, on va pousser davantage. Puis des fois, ça va même aider à rafraîchir certaines techniques ou méthodes d'évaluation de la part des étudiantes versus les infirmières qui sont là depuis longtemps, où on développe davantage plus une routine.
Moi, je me rappellerai toujours, là, j'étais sur un département où est-ce qu'il n'y avait pas beaucoup de technique quand j'étais étudiante. Puis, les infirmières étaient venues nous voir pour se rafraîchir la mémoire d'une technique. Ils étaient venus voir les étudiantes, puis ils avaient dit, comment on fait ça? Pouvez-vous nous aider? Tellement que, tu sais, on était comme les connaissances les plus à jour à ce moment-là. C'est sûr qu'il y a d'autres sources, là, on s'entend, on s'assinera pas là-dessus, mais. Il était venu nous voir. Donnez-nous vos trucs là, pour ça. Fait que ça avait été intéressant. On apporte cet échange-là quand même quand on est étudiant, je pense.
Absolument. Ou des fois, on est sur un département qui n'a pas cette méthode-là. Si, mettons, on prend la stomie. Ben, tu sais, c'est un département de pneumo. Il n'y en a pas de stomie habituellement. Fait que là, tu as un patient qui a un problème pulmonaire, puis en plus, il y a une stomie. Souvent, les infirmières vont être, hey, qu'est-ce que je fais avec ça? Fait que oui, les étudiants, eux, viennent, c'est encore frais dans leur mémoire, ils l'ont vu probablement le stage avant. Fait qu'ils vont aider.
Il y a aussi le fait que les étudiants, ils ont souvent juste un ou deux patients. Puis ça, je pense que ça amène un certain recul, puis un certain temps pour voir le patient dans sa globalité, voir les failles, tu sais, les choses qu'on n'a pas remarquées encore. Par exemple, un patient qui n'a pas ses appareils auditifs depuis 3 jours, l'infirmière, elle n'a pas vu dans le dossier qu'il avait un déficit auditif. Puis là, ça fait 3 jours qu'il est sur le département, sa famille ne visite pas, on n'a pas d'appareil auditif. L'étudiant me dit, ah, ce patient-là, là, a une place dans le dossier. C'est écrit à une place, là, tu sais. Il a fait Sherlock Holmes, puis il a trouvé que le patient, il avait un déficit auditif. Ben, crime! Son patient, il a eu son appareil le lendemain matin. Fait que
Bien oui.
ça a des impacts dans le parcours de nos patients de voir quelque chose qu'une infirmière n'aurait pas vu parce que pas jamais là, mais elle n'a pas eu le temps d'être là quand on met le patient au fauteuil, donc elle n'a pas vu son inconfort à ce moment-là ou des choses comme ça. Bien, ça l'amène d'autres lunettes. Ça, je pense que ça a un gros impact dans le parcours des patients.
Oui, effectivement. Puis, tu sais, puis faut apprendre par en le faisant. Tu sais, oui, on va dans les laboratoires, on a les cours théoriques, mais il faut le voir, il faut le faire pour vrai. Okay? Mais avant d'avoir la quantité, il faut avoir la qualité. C'est un peu ce que je dis. Tu sais, oui, elle a juste un patient, mais le jugement clinique, ça prend du temps. Elle va le faire. C'est facile de dire, ben, tu fais ça, 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 ça. Ça devient une recette. C'est pour ça qu'on veut. On veut qu'elle réfléchisse par elle-même. Donc, oui, il va avoir plusieurs va-et-vient dans la chambre pour faire l'évaluation. Il manque des informations parce qu'on la questionne. On ne veut pas lui donner les réponses. On veut qu'elle les trouve par elle-même. On fait juste la guider. Mais si elle a 5 patients, oublie ça, on n'a pas le temps de faire ça. Puis en plus, qu'ils n'ont pas la dextérité encore d'une infirmière qui se fait 20 ans qui installe des solutés. T'sais, souvent, ça va être leur premier ou leur deuxième là, quand on est sur ce département-là, c'est au début. Puis oui, ça prend du temps. Hein? Mais le temps qu'on prend pour installer cette soluté-là, ben, l'infirmière n'a pas besoin de le faire. T'sais, elle peut se permettre de faire d'autres choses. Peut-être compléter ses évaluations ou aider des infirmières plus jeunes sur le département.
C'est bien vrai. Fait qu'un autre mythe de déconstruit.
Oui.
Prochain, on travaille toujours de nuit quand on commence.
Ça, c'est si on veut. Maintenant, il y a de plus en plus. T'sais, il y a plein de postes qui sont ouverts. Ils ne réussissent pas à les combler. Le ministère va souvent faire affaire avec des agences. Là, maintenant, ils ne peuvent plus. Mais on a ce problème-là. Donc, fait que oui, il y a des quarts de jour, il y a des quarts de soir, il y a des quarts de nuit. Mais je te dirais que tout dépendant de ce que tu veux faire, moi, j'ai commencé de nuit. Pas parce que je n'étais pas capable, ben oui, j'avais peut-être plus de difficultés à avoir un quart de jour, mais j'aurais pu travailler le soir. Mais avec des enfants, je ne suis pas capable. Tu me dis, je vais aller travailler le soir, je vais partir à 4 heures, je vais revenir à minuit, je ne vois pas les enfants. Donc, de travailler de nuit, moi, je n'ai pas de problème de sommeil, donne-moi un oreiller puis je dors. Donc, fait que je me levais donc à l'heure du souper, je voyais les enfants, je faisais faire les devoirs, tout ça. Après ça, à minuit, ben, 11h30, j'allais travailler jusqu'à 8h le lendemain matin. Puis pendant qu'il était à l'école, ben moi, je dormais. C'est aussi pas juste le fait de dire je travaille de nuit, mais il y a des avantages à travailler de nuit. Hein? Moi, ça a été le corps de travail où j'ai le plus apprécié parce que il y avait moins de médecins, il y a moins d'évaluation, de méthodes de soins à faire. On travaille davantage dans les dossiers. Je trouve qu'on connaît même plus les patients quand on travaille de nuit parce qu'on va fouiller dans les dossiers que de travailler de jour où on fait ce qui risque notre plan de travail, puis c'est vite, vite, vite. C'est sûr qu'on ne parle pas aux patients nécessairement, mais pour faire des liens entre la médication, les examens de laboratoire que le médecin a donné, de nuit, on a le temps de faire ça.
Oui, on va vendre le chiffre de nuit parce que moi aussi, c'est mon chiffre préféré. On a quand même un lien proximal aussi qui se développe avec les patients parce qu'ils ne dorment pas tous, là. Souvent, il y en a des agités ou en détresse. Mais je trouve de nuit, il y a comme une petite proximité puis intimité qui se développe vraiment rapidement avec les patients. Donc, ça, c'est ce que j'aime de ça jappe, là. Je ne sais pas si vous les entendez, mes chiens jappés. Ça va, OK. Fait que je vais faire semblant qu'ils ne sont pas là, puis je vais continuer. Donc, cette proximité-là avec le patient, l'accès au dossier, comme tu dis, on a accès au dossier. Il n'est pas au poste avec le médecin ou parti avec le physiothérapeute pour qu'il documente les choses. Fait que ça amène une belle chose. Travailler de nuit, moi aussi, c'est mon chiffre préféré. Le beat aussi. On se sent comme un petit peu plus chez nous. Les équipes travaillent beaucoup ensemble de nuit. Donc, c'est ce que je préfère. Mais on n'est pas obligé de commencer de nuit. Souvent, il y a aussi des centres qui vont offrir la rotation et tout ça. On parlait de magasiner tantôt, mais si de nuit, ce n'est pas ce qui te tente, magasine un peu, je pense que tu vas être capable de trouver ton compte ailleurs, là. Puis après ça, ben moi, je pense que c'est une belle avenue de travailler de nuit, mais bon, ça, c'est mon point de vue personnel.
Oui, on est deux. Ouais, on a quand même deux expertises là-dedans. Oui, de jour, c'est aussi agréable, mais on va avoir notre soirée pareil quand tu travailles de nuit. Mais ce qui est important, surtout si on travaille de nuit, c'est de bien dormir. S'il y en a qui ne sont pas capables de dormir, il y en a d'autres qui n'ont pas de problème. Donc, c'est d'aller voir qu'est-ce qui est le mieux pour toi. Mais ce n'est pas vrai que ça commence toujours de nuit. Il y en a beaucoup qui travaillent de jour. Il y en a beaucoup qui travaillent de soir. Puis, tout dépendant de qu'est-ce que tu fais aussi. Si tu es à l'université en plus, ben peut-être qu'un poste de soir, c'est plus facile parce que tu fais tes cours de jour, tu vas travailler le soir. Donc, si c'est l'organisation, donc on réussit à trouver des postes comme on veut.
Absolument.
Puis le travail de week-end, bien ça vient avec. Donc, tu sais, en rentrant en soins infirmiers, on vous le dit, vous allez travailler le week-end. à moins d'être dans des départements vraiment spécialisés. Mais à ce moment-là, ça va prendre quelques années d'expérience avant de travailler sur des postes où il n'y a pas de week-end. Puis encore là, ça se modifie de plus en plus. Donc, tu sais, des courts séjours ou des départements où c'était fermé les week-ends, maintenant, ils sont ouverts. On a des départements de radiologie qui sont ouverts même de nuit maintenant. Des mammographies et tout ça. Donc, fait que, t'sais, tout change, fait que c'est d'aller se trouver la meilleure façon.
Puis travailler les fins de semaine, je pense que c'est donc pas un mythe nécessairement, ça serait peut-être plus une réalité, surtout en commençant. Je pense que c'est quasiment inévitable là, de faire une fin de semaine sur deux. Il y a certains départements qui offrent une fin de semaine sur trois selon leur organisation de travail. Les 12 heures, on n'en a pas parlé, mais tu peux faire des 12 heures et donc travailler moins souvent, mais plus longtemps. Fait que ça, c'est des alternatives là, qui, encore une fois, peuvent changer vraiment ton beat de vie. Éviter que tu ne sois pas en burn-out, c'est de choisir ta recette pour toi, là. Qu'est-ce qui est plus intéressant pour toi comme rythme de vie, puis de prioriser ça dans tes choix?
Bien, tant qu'à aller là, un qu'on n'a pas, on n'a pas parlé, mais ça vient avec plus le travail, c'est de dire on n'a jamais de vacances quand on est jeune. Et de plus en plus, on voit des départements où on travaille 7-7. Donc, durant la période d'été, donc tu fais 6 jours, tu es 6 jours en congé, tu travailles 6 jours, tu es 6 jours en congé. Donc, tu as toujours un pendant. Donc, tu as quelqu'un qui. Moi, je ferais une semaine, toi, tu ferais l'autre semaine. Donc, on n'a pas à. Les vacances sont faites comme ça. C'est sûr que tu n'as pas 2 semaines, mais au mois de juillet, tu es sûr d'avoir 2 semaines pas collées, mais tu en as deux. Puis, tu en as deux au mois d'août aussi, puis tu en as deux au mois de juin. Donc, ça permet aussi de décrocher, puis de dire, ben regarde, je peux aussi profiter de l'été parce que l'été est tellement court. Donc ça, c'est des belles alternatives qu'il y a de plus en plus.
Ah oui, les 7 jours, c'est vraiment intéressant. Où est-ce que je travaille, les infirmières font ça, c'est extraordinaire, là. T'as 7 jours de travail, 7 jours de congé, mais après, tu prends une semaine de vacances et t'as 3 semaines de congé parce que tu la prends dans le milieu de tes 2 semaines. C'est
Exact.
vraiment hot. Vraiment, là. Donc, ça aussi, c'est un mythe. On peut avoir des journées de congé, puis on peut avoir une vie sociale, puis des gros moments de congé, même si on commence, là.
Puis de profiter, d'être capable de profiter de l'été aussi.
Ben oui, il faut, parce que sinon, c'est ça, on vient fatiguer vite, là.
Oui, puis on a le droit. T'sais, avant ça, moi, quand je prenais mes vacances, c'était avant la Saint-Jean-Baptiste ou après la fête du travail.
Oui.
Les enfants sont encore à l'école ou sont retournés à l'école. Donc maintenant, il y a de la belle flexibilité par rapport aux vacances.
Oui, puis il y a toujours façon de s'arranger. On peut faire du temps cumulé. C'est sûr qu'il faut toujours demander. À nos chefs d'unité, tout ça, là, on peut pas prendre un congé au milieu de l'été pendant que tout le monde prend leur congé, mais il y a des façons d'avoir congé. Renseignez-vous, là. Je pense que l'approche humaine là-dedans est importante. Prenez pas pour acquis que vous avez le droit à un congé, mais demandez, puis essayez de trouver une solution avec votre chef d'unité, puis il y a toujours une façon de s'arranger.
Donc, un autre mythe qu'on a déconstruit, que les jeunes n'ont pas de vacances l'été.
Toutes les infirmières travaillent à l'hôpital?
Ben non. Comme CPI, oui, par contre, parce que les CPI ont l'obligation de travailler dans le réseau de la santé publique.
Mais
Ben, ils peuvent
il peut travailler
travailler
en CHSLD.
en CHSLD. Donc, qui n'est pas nécessairement un hôpital. Puis après, lorsque on a notre permis d'exercice, on peut aller travailler n'importe où. On peut travailler dans un camp de vacances, on peut travailler pour Hémo-Québec, on peut aller travailler en scolaire, on peut travailler à notre compte.
Oui.
Là, qui décident de faire une pratique autonome, donc où on va faire des pansements, des prises de sang, donc de l'évaluation. Il y a plein de choses qu'on peut faire autre que de travailler dans le réseau public.
CLSC, clinique, pharmacie, les
Oui.
écoles. C'est sûr que certains de ces milieux-là sont parfois privilégiés pour les cliniciennes, mais explorer parce que, comme partout, il manque d'infirmières. Fait que même des fois, si le bac est demandé, ben, s'ils n'ont pas personne, vu que c'est privé, c'est pas syndiqué.
Exact.
En tout cas, il faut tenter le coup si vous voulez avoir quelque chose qui est en dehors du milieu hospitalier. Il y a plein d'autres options qui s'offrent à vous. Les maisons de soins palliatifs, là, on ne les a pas nommées, il faut les nommer, là, parce que
Oui, c'est
c'est
important.
ma passion. Mais les maisons de soins palliatifs aussi, entre autres, tu sais, souvent c'est écrit qu'on privilégie les cliniciennes, mais qui sommes-nous pour privilégier les cliniciennes quand tu as trois postes à combler?
Exact.
Tu prends l'infirmière qui a son cours puis son permis de l'ordre, là, et qui est
Oui,
intéressante en entrevue. Alors ça, c'est une autre affaire.
et peut-être que tu as commencé, elle a commencé aussi son bac.
Ben oui,
C'est
c'est
ça qui est
ça.
en devenir, là, tu sais, tu as commencé déjà. Ben, fait que ça
Les
aussi, ça
rythmes
peut être.
sont différents pour chacun pour l'obtention du bac, puis c'est parfait comme ça. Et donc, ces postes-là sont traditionnellement quand même plus ouverts là, aux infirmières qui ont leur bac, mais pas nécessairement. Il y a de la recherche aussi qui est intéressante, puis bien l'enseignement.
C'est ça que je m'en allais dire. Celui-là qu'on a aussi côtoyé, que tu côtoies encore, qu'on a côtoyé, moi j'ai côtoyé pendant des années. Donc, oui, l'enseignement, ça fait partie des soins infirmiers. On a des infirmières à part entière aussi,
Oui.
avec un permis, puis on pourrait travailler dans le milieu clinique demain matin si on voulait.
Mais en fait, on peut faire les deux aussi.
On peut faire les deux. Il y en a qui
Mais
font les deux.
on est occupé beaucoup quand on fait ça, les deux. On s'en va où? On s'en va où? Je regarde la liste.
Il faut avoir des bonnes notes pour être une infirmière, pour rentrer en soins infirmiers.
Ah ben là, ça, c'est vraiment important de faire celui-là, t'as raison. Donc, si on est bonne à l'école secondaire, on va trouver ça facile ou on se fait dire, ben, t'as pas des assez bonnes notes pour être en soins. La réalité de maintenant, c'est quoi, Sylvie?
C'est le vouloir. Donc, si tu es intéressé à ce que tu fais, ce n'est pas d'avoir 90, mais c'est de comprendre. C'est de faire les efforts, de connaître tes choses, de développer le jugement critique, c'est toujours ça. Mais, tu sais, une étudiante qui est capable de mémoriser, c'est une chose. Mais d'être capable d'exécuter, d'être capable de faire des liens, bien, ce n'est pas juste en mémorisant, en faire du par cœur. Donc, puis je pense que celles qui ont des fois de la difficulté, qui ont eu de la difficulté au secondaire, puis qui ont travaillé fort, ça va être encore plus facile rendu en soins parce qu'ils sont habitués, ils sont disciplinés. Donc, ils savent qu'ils ne l'ont pas facile, qu'il faut qu'ils étudient pour réussir, bien, ça va être encore plus facile. Mais ceux qui n'ont pas étudié, tu sais, il y en a là, qui passent leur secondaire à rien faire, là. Parce qu'ils n'ont pas, même pas besoin d'étudier, ils font juste écouter le prof puis ils font les examens. Eux ont de la difficulté lorsqu'ils arrivent en soins, souvent.
C'est vrai, ils n'ont pas
Oui.
mis déjà des trucs en place, de l'organisation, puis tout ça, absolument. Il y a aussi, je pense que qu'est-ce qui explique un peu ce mythe-là, c'est qu'avant, on avait moins de programmes qui offraient les soins infirmiers au cégep. Puis là, je sais pas, là, on pourrait sortir des stats, mais les cégeps qui offrent le programme de soins, ça a vraiment augmenté dans les dernières années, là.
Je
Donc,
pense qu'il y en a 50, je pense, qui donnent le
puis
coup.
avant, c'était beaucoup moins. Puis ça faisait que vu qu'il y avait moins de programmes, bon, c'était plus contingenté. Je sais que où est-ce que j'enseigne, notre moyenne minimum pour rentrer en soins au cégep où est-ce que je suis, mais c'était avant, c'était 80. Et puis là, maintenant, on n'a même plus de moyenne parce qu'on a tellement d'étudiants qui postulent, on a plus d'intérêt pour le programme, mais en plus, il y a tellement plein de cégeps que dans le fond, tous les étudiants qui avaient des moyennes en haut de 80 sont partout là, maintenant. Fait que c'est moins contingenté qu'avant.
Oui.
Ça peut amener le fait que, vu qu'il y avait quand même cette demande-là au niveau des demandes d'admission d'avoir au moins une moyenne certaine, ben ça a amené ce mythe-là, mais maintenant, c'est plus applicable.
Non, puis c'est bon pour, c'est ça, pour tout le monde. Puis tu sais, mais quand, tu sais, s'il y en a qui nous écoutent, qui sont au secondaire, puis ça leur tente de commencer les soins infirmiers, il y a toujours des portes ouvertes où on va expliquer les programmes et tout ça. Allez vous informer. Bon, tu sais, le cégep va savoir vraiment qu'est-ce que tu as besoin. Mais comme je dis, la note, non, de moins en moins.
Oui. Puis on peut être en soins infirmiers, c'est un autre mythe que je voulais défaire, là. On peut être en soins infirmiers même si on a des troubles d'apprentissage, un profil d'apprentissage différent. Donc là, on pourrait parler de TDAH, de dyslexie, de dyspraxie ou certains handicaps au niveau de l'audition, par exemple. Même au niveau des mains, là, j'ai vu récemment des handicaps au niveau des mains, puis tout ça, des prothèses. Tout ça fonctionne maintenant. Je pense qu'on est dans un milieu où est-ce que l'inclusion de la diversité est valorisée. Donc, beaucoup moins de barrières qu'avant. par rapport à ça.
Exact. Puis si tu as déjà un plan d'intervention au secondaire, bien, il va suivre au cégep. Fait que si tu as besoin de plus de temps pour faire tes examens, si tu as besoin d'outils particuliers pour faire tes examens, tu vas pouvoir les avoir aussi. Donc, tu sais, ce que tu avais mis en place au secondaire, ça va te suivre au cégep, même en soins infirmiers.
Oui, donc absolument possible. On peut faire les soins aussi avec la médication qu'on prend, par exemple. Est-ce qu'on peut prendre des médications pour le TDAH puis être en soins? Ça, c'est une question que je reçois parfois.
Absolument, parce que tu en as besoin pour justement te concentrer. Donc, oui, c'est vrai que dans le code de déontologie, on dit qu'on ne peut pas travailler sous influence de drogue ou d'alcool, mais on ne parle pas ici de drogue, de médicaments, là. On parle plus de drogue un peu plus illicite, là, mais ou de la médication qui jouerait sur la vigilance. Au contraire, les médicaments qu'on donne pour les TDAH, ben c'est justement pour augmenter la vigilance, pour être pas distrait. Donc, c'est le contraire. Il faut l'apprendre. C'est important de l'apprendre, puis c'est même important d'en aviser tes profs de stage.
Oui, on a des étudiants qui vont prendre des antidépresseurs, des antipsychotiques, des anticonvulsivants, par exemple, qui, eux, vont diminuer la capacité d'attention. Puis justement, ça peut être considéré comme quelque chose qui vont jouer là-dessus. L'important, c'est que tu t'en rendes compte, je pense, puis que tu trouves des moyens là, de gérer ça. Donc, ce n'est pas juste des médicaments qui vont jouer sur l'attention, tu sais. Puis la différence est là, c'est que tu n'es pas en drogue, là, tu es en médicament essentiel pour mon enjeu de santé. Donc,
Exact,
c'est important que
contrôlé
tu
par un
continues à
médecin.
prendre tes médics.
Absolument,
Vraiment.
contrôlé par le médecin, puis tu es probablement suivi. Donc, c'est important. Tu es comme considéré comme un patient en même temps. T'sais, si tu prends la médication parce que, je sais pas, moi, tu as de la difficulté, tu as eu une passe qui était difficile. Mais ça ne t'empêche pas de travailler, ça ne t'empêche pas d'étudier. Donc, il faut prendre ça en considération, il faut le dire, puis en même temps, tu viens aussi d'ouvrir des barrières. Les gens qui ont des troubles particuliers, sont tendance à s'isoler, à pas trop en parler. Mais plus on en parle, plus ça devient pas la norme, mais plus c'est accepté.
Parfois, on peut avoir l'impression qu'avant de commencer les soins ou durant l'été, avant ma prochaine session, par exemple, durant mon parcours, mais là, je me sens bien, puis ça serait peut-être le moment de revoir ma médication et tout ça. Prenez jamais ces décisions-là seules, parlez-en à vos médecins traitants, puis tout ça, mais par expérience, souvent, c'est pas durant les moments d'intensité de session que c'est le temps de faire des changements par rapport à la médication. Donc, faut vraiment que ça soit évalué, concerté là, avec votre équipe médicale. C'est vraiment important. Mais après ça, de prendre des médicaments pendant ton cours, pas de problème.
Exact, il n'y a pas de problème. Ah, un autre ici, qui est de moins en moins vrai, je pense que les infirmières, c'est toutes des femmes.
Ben oui, on voit vraiment une augmentation. Je devrais dire ben non. On voit vraiment une augmentation là, des personnes genrées masculines dans nos programmes. On a de plus en plus d'hommes. Puis je pense que les stats s'augmentent, là. On a fait un petit Google search avant de commencer, Sylvie. Tu te rappelles-tu des stats des hommes?
Oui, c'était 12
Ouais.
ou 13 %, on est rendu, puis il n'y a pas si longtemps, peut-être même pas 10 ans, on n'était pas à 10 % encore.
Oui, donc la profession infirmière, même si on la féminise encore avec tu sais, dans les écritures de l'OEQ, puis même dans le programme, là, souvent c'est encore au féminin, de plus en plus est diversifiée au niveau du genre, puis c'est plus quelque chose qui est nécessairement vrai, là, que c'est juste des femmes dans le monde infirmier.
Peut-être aussi que parce qu'on a un président de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, c'est un homme. Donc, peut-être que ça l'a amené aussi des jeunes hommes ou des jeunes garçons de dire, hey, ben moi, je pourrais aller en soins infirmiers.
Mais hein, puis il faut défaire l'espèce d'image professionnelle que en soins infirmiers, justement, c'est une infirmière, tout avec sa petite robe, son petit chapeau, tout ça. Bien, plus on s'éloigne de cette espèce de monde-là où est-ce que c'était traditionnellement femme, puis qu'il faut vraiment bien de l'empathie, de la douceur, puis tout ça, quand on est infirmière. Il faut ça, mais il faut aussi d'autres choses. Plus on s'éloigne de ça, plus dans le fond, je pense que les hommes vont être valorisés là, dans notre monde. Moi, quand j'ai commencé à enseigner, là, on n'en avait quasiment pas dans notre cohorte. C'était juste des personnes qui s'identifiaient comme des femmes. Puis, ben, dans les dernières années, là, des fois, c'est presque un tiers de ma cohorte. Donc, c'est même plus, oh, je suis à Montréal, là, on s'entend, mais c'est même plus que les statistiques de l'OIQ, là, dans mes classes. Fait que je pense que ça augmente de plus en plus, puis tant mieux, tant mieux. Cette diversité-là est importante.
Absolument. Est-ce que ça défait aussi le mythe que une infirmière, c'est une vocation?
Je pense un peu aussi, c'est ça, cette histoire-là de vocation, je pense que ça vient du temps de Florence Nightingale, là, tu sais, la guerre, les femmes allaient comme infirmières à la guerre, les hommes allaient combattre, tu sais, c'était ça, là, ton avenue durant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, ben c'est plus ça maintenant, c'est plus une vocation, tu t'en vas pas sauver des soldats mourants qui sont en hémorragie, mettre une débarbouillette sur le front puis prier, là, c'est plus... D'après moi, ils faisaient plus que ça dans ce temps-là, mais c'est plus ce que c'était la profession infirmière. On est des expertes aussi, on a une grande compétence dans ce qu'on fait. Donc, c'est pas seulement une vocation, en fait, on est formé là, pour ça.
Ben, on est des professionnels, t'sais, on a des activités réservées qui nous appartiennent. Donc, fait que ça fait. Puis quelqu'un qui a juste une vocation va faire des choses, mais ce n'est pas exclusif à cette personne-là. Nous, on a besoin d'un permis de travail, donc on n'est plus dans la vocation. On est dans un cadre professionnel où c'est un travail. C'est sûr qu'il faut avoir des aptitudes. T'sais, si on n'aime pas ça, puis on n'aime pas être avec du monde, puis on n'aime pas aider les gens à aller mieux, ben on s'en va pas en soins infirmiers, on va aller en comptabilité, on va aller en construction, on va aller ailleurs. C'est pas tout le monde qui est fait pour les soins infirmiers non plus.
Mais tu sais, dans cette optique-là, moi, je n'ai pas la vocation d'être mécanicienne. Tu sais, c'est la même chose, là. Autant, j'ai pas les connaissances pour être mécanicienne, je n'ai pas cet appel-là pour aller là. Puis quand je veux être infirmière, ben oui, j'ai un intérêt pour l'être, mais c'est pas comme un appel, là, de l'au-delà qui me dit, Karine, tu devrais aller vers ça parce que tu es fait pour ça. Et puis ça va donc être facile parce que c'est une vocation. Ça arrive pas comme ça. Donc, on
Non.
construit notre expérience. Il y a une science derrière les soins infirmiers. Il y a une grande science maintenant, c'est pas ça que je veux dire. Surtout, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de recherches qui est fait. Ce n'est pas seulement, ou ce n'est pas une vocation, en fait. On ne devrait même pas dire ce n'est pas ça.
Exact. Puis on le voit avec les universités, on a des départements de sciences infirmières. Il y a de la recherche qui se fait, puis ils sortent des belles choses de ces recherches-là qui sont applicables vraiment sur le terrain, que la médecine ne fera pas parce que ce n'est pas dans leur mandat.
Oui, ben parce que c'est deux choses très différentes. Oui.
Absolument.
Je vais cocher qu'est-ce qu'on a, voir, je vais me recentrer. Ben, on parle un peu du rôle infirmière. Il y a un mythe qu'on dit souvent, c'est que l'infirmière, c'est une passeuse de pilules. Puis ça va
Ah.
peut-être un peu avec la vocation, mais ça va plus loin que ça quand même. Donc, le mythe, le rôle de l'infirmière, c'est de prendre des cinq vitaux, puis de donner des médicaments, de passer des pilules.
Ah, ça, là, ben, je le dis souvent, on n'est pas des passeuses de pilules, justement. On a une activité qui nous est réservée d'administrer des médicaments selon une ordonnance médicale. Le médecin va prescrire le médicament. Mais nous, on va s'assurer que le patient, c'est correct de lui administrer ce médicament-là. Donc, on va faire l'évaluation préalable, on va le préparer, on va s'assurer de ne pas avoir d'erreur, on va l'administrer, mais on va surtout aussi évaluer l'efficacité et aussi les complications qui peuvent arriver, les interactions entre les médicaments. Donc, tout ça, c'est pas juste de dire, tiens, je vous donne votre pilule rose. Donc, il y a tout le processus d'évaluation, d'administration, mais de suivi également. Donc, ça n'a rien à voir avec des passeuses de pilules.
Oui, c'est une activité de notre journée. C'est une activité qui n'est pas réservée à l'infirmière. En fait, hein, on va le faire, mais ce n'est pas juste nous qui faisons le passage de pilule, entre guillemets. Ça pourrait même être un préposé, ça peut être un proche qui donne les médicaments. Ce n'est pas juste ça qu'on fait. C'est beaucoup plus large que ça, là.
Exact. Puis en même temps, j'ai oublié, j'ai perdu mon idée. Moi, dans le sens où on est comme infirmière, on a aussi la possibilité de dire je ne donne pas le médicament. Et ça, on est les seuls aussi à déterminer. Si on parle d'une infirmière auxiliaire, elle doit se référer à l'infirmière ou au médecin pour dire, je ne suis pas sûre pour le patient, est-ce que je lui donne ou je ne lui donne pas? L'infirmière, elle a la possibilité de dire non, je ne lui donne pas pour X, Y raison. Et ensuite, on va aviser le médecin qui a prescrit ce médicament-là. Mais ça fait partie de notre rôle et notre responsabilité dans l'administration.
Donc, c'est, tu sais, t'amènes le point qui est entre l'exécution d'une tâche, parce que je pense que derrière ce mythe-là, il y a ça. Il y a prendre les signes vitaux. Le fait de prendre une pression, c'est une tâche, c'est une exécution de quelque chose. Mais il y a toute l'analyse, le jugement clinique en arrière de ça qui nous est réservé finalement. Qu'est-ce que je fais avec ces signes vitaux-là? Comment je les interprète? La pression, le pouls ensemble avec la respiration, comment j'interprète ça, puis je l'analyse, puis que je décide le reste de ma prise en charge. Ça, c'est un volet infirmier qui montre notre expertise, puis qui montre qu'on n'est pas seulement une vocation, là.
Exact. Tu sais, les médecins prescrivent des signes vitaux parce qu'ils ont besoin de valeurs pour être capables de continuer les traitements et tout ça. Mais nous, on fait cette évaluation-là. Fait que même si le médecin ne prescrirait pas de signes vitaux, on pourrait les faire. On serait capable, mais on doit aussi le faire, de prescrire des signes vitaux quand le patient va moins bien, plus que ce que le médecin a prescrit. Parce que nous, comme infirmières, on en a besoin dans notre évaluation puis dans notre suivi de patient.
C'est un peu comme l'auscultation pulmonaire ou l'auscultation de l'abdomen ou l'examen clinique qui ne sera pas prescrit par le médecin que je dois exécuter ces choses-là. Hein. Le médecin ne dit jamais de faire ça, d'ailleurs. Mais c'est notre responsabilité infirmière de le faire parce que je sais que mon patient est à risque de développer quelque chose de pulmonaire ou d'être constipé. Donc ça, c'est à nous de le faire, puis ça montre le champ de pratique et l'expertise qu'on développe, là.
Donc, on voit que, tu sais, l'infirmière, c'est pas juste une technicienne, là. Elle fait pas juste des techniques. Donc, elle fait beaucoup d'évaluations, beaucoup de rôles autonomes. On a besoin des médecins pour les prescriptions des traitements, c'est correct, mais pour le reste, dans l'évaluation, ça nous appartient au même titre que le médecin, sauf qu'on ne recherche pas nécessairement la même chose.
Une autre belle facette de notre champ de pratique, c'est la gestion des plaies. Souvent, les médecins vont se retourner vers nous autres et vont dire, mais OK, moi, je ne sais pas quoi mettre là-dessus, là. Puis parfois, on va avoir besoin de la prescription parce que c'est pour les assurances du patient ou tout ça à l'externe ou des choses comme ça. Mais qui va décider qu'est-ce qu'on met sur la plaie? C'est souvent l'infirmière parce que ça fait partie des expertises qu'on développe avec le temps dans notre formation, mais aussi avec la pratique. Puis on peut décider de qu'est-ce qu'on met sur la plaie. Ça fait partie évaluation, jugement après. Donc, c'est une belle facette là, de montrer qu'on n'est pas juste des passeuses de pilules ou des poseuses de pansements.
Exact.
Il faut être naturellement empathique pour réussir en soins.
Non, ben on aime les, tu sais, on aime prendre soin, on veut que nos patients récupèrent le mieux possible. On veut aussi les écouter quand il vient d'avoir une mauvaise nouvelle, il vient d'apprendre qu'il y a un cancer, c'est incurable, là. Puis la semaine passée, il travaillait, là. C'est sûr qu'on va avoir une oreille, on va avoir une écoute. Donc, l'empathie vient de soi, je pense, dès que tu veux travailler pour les autres, que tu veux les aider, à mon avis.
Mais je pense qu'avant, tu sais, dans le fond, pour réussir en soins ou pour décider de venir en soins, il faut que tu aies un désir d'être avec l'autre. Tu aies une motivation d'être avec l'humain parce que ça, je pense que tu t'en sauveras pas, là. Il va toujours avoir des humains en soins infirmiers. Les patients ne seront pas remplacés par des robots à un moment donné. Mais l'empathie, elle se développe. Tu sais, même si tu ne sais pas toujours quoi dire, en fait, c'est normal que tu ne saches pas quoi dire à un patient qui vient d'avoir ce genre de diagnostic-là. Donc, tu vas développer ton empathie, tu vas trouver des façons d'écouter tes patients, d'établir une relation de confiance avec eux et tout ça. C'est pas quelque chose que tu es obligé d'avoir dès le début de ta formation, là.
Mais non, puis on les forme aussi à c'est quoi de l'empathie, puis de se pratiquer quand on est en laboratoire, puis après ça, puis ces situations-là pour lesquelles on a besoin de démontrer de l'empathie, on ne peut pas les déterminer d'avance. Ils arrivent quand ils arrivent. Mais moi, ce que je peux dire aussi, c'est que on a deux oreilles, puis on a une bouche. Fait que vous avez deux oreilles, écoutez. Vous n'êtes pas obligé de parler. Puis juste écouter. c'est aussi être empathique.
Oui. Puis c'est quelque chose qui est, quand tu sais que tu as moins besoin de parler que d'écouter, si tu fais juste cette réflexion-là pendant que le patient te parle, juste prendre ce recul-là, souvent tu fais bien ta job.
Exact. Parce qu'il ne veut pas de recette miracle. Des fois, c'est juste d'avoir quelqu'un pour ventiler. Donc, on est là pour ça. On est les seuls professionnels qui sont 24 heures sur 24 avec les patients, là. C'est sûr qu'ils développent une proximité, une confiance, surtout si c'est des départements où les patients sont là à long terme. Donc, fait que c'est, on est là pour les écouter, pour pas se mettre à leur place, mais d'essayer de les comprendre dans leur vulnérabilité, puis des fois dans leur comportement qui, des fois, paraît à première vue très agressif, mais des fois, juste d'écouter davantage, puis on va se rendre compte que c'est parce qu'il est en détresse.
Oui, ça vient souvent de là, en fait, là. Ou quand ils sont réticents aux soins aussi, ou qu'ils ont l'air bêtes, faut essayer de voir en arrière, du comportement, là, vous allez trouver des perles. Faut juste être
Oui.
là puis être présent.
Exact. Mais l'empathie se développe bien. Des gens qui sont moins empathiques ou tu sais, qui ont moins ça dans eux autres vont aussi trouver leur place en soins. Tu sais, je parle de je sais pas moi, travailler au bloc opératoire, travailler dans des protocoles de recherche. Tu sais, des éléments où ils vont peut-être avoir moins de contact patient. Ils vont peut-être faire de la gestion aussi. Et donc, c'est un domaine qu'on n'a pas parlé, mais tu sais, la gestion d'être sur des projets spéciaux où on ne travaille pas nécessairement avec les patients, mais on va travailler comme un peu plus haut que les infirmières. Donc, ça peut faire partie aussi d'une autre branche des soins infirmiers.
On n'a pas besoin d'être bon dans tout,
Non.
finalement. Fait que, tu sais, moi, ma force, ça peut être l'empathie, puis tout ça, mais si tu me mets un gros système cardio, puis, tu sais, plein de pompes, puis tout ça, je suis submergée, mais il y en a d'autres qui sont bons là-dedans. On a tous nos forces différentes. Il faut un certain minimum, puisqu'on deal avec des humains, mais ça se peut que tu sois plus maladroit, puis c'est correct, là. J'ai un personnage de télévision en tête, là. Qui
Ah.
justement est médecin puis a très peu d'empathie, là.
Ah
Mais
oui.
c'est faisable, là, quand même. Tu peux réussir dans la vie sans l'empathie. C'est juste que ça va peut-être être juste moins bon dans ce volet-là.
Puis c'est
Reste
sûr que
que.
ben oui, puis quand tu vas faire tes stages, ben quand tu vas aller en soins palliatifs, tu vas dire ben, j'aime pas ça. Ben oui, mais c'est correct. C'est pour ça qu'on fait aussi beaucoup de milieux en stage pour essayer de te démontrer quelles sont les aptitudes, comme je pourrais dire, de chacun des milieux. Tu sais, tu as des milieux qui sont très tranquilles dans le sens où tu ne te cours pas les pattes aux fesses. D'autres, tu as besoin de plus d'écoute. D'autres, tu vas avoir un autre volet plus technique, plus rapide. Tu sais, la personne qui fait un infarctus, c'est go, 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 là. On ne commence pas à prendre le temps d'eux. Donc, fait, tu sais, différents départements vont faire en sorte que tu vas voir qu'est-ce que tu aimes le mieux.
Oui. En fond, ça va avec, mais peut-être juste un petit peu avant, si on recule, on n'a pas besoin d'être bon dans tout. Puis ça va peut-être avec notre dernier mythe qu'un bon infirmier, une bonne infirmière ne doit jamais se tromper, ne fait pas d'erreur et donc parfait. J'aimerais bien penser qu'on est tous parfaits, mais j'ai l'impression que ce n'est pas la réalité.
Ben, l'infirmière parfaite, c'est celle qui ne voit pas ses erreurs.
Qui voit ses erreurs, tu veux dire?
Ne voit pas ses erreurs.
Oh, elle est parfaite parce qu'elle ne voit pas ses erreurs.
Ben oui.
Elle se sent parfaite.
Exact. Mais elle dit, moi, je
Oui.
suis parfaite, moi, j'ai jamais fait d'erreur. Ben oui, c'est parce que tu les as jamais vues, tes erreurs. Tout le
Je pensais
monde fait
que
des
tu disais,
erreurs.
que l'infirmière qui est parfaite, qui je pense c'est parfaite, c'est celle qui voit ses erreurs. Donc c'est un peu
Non, non,
la même chose que
non,
tu
ben non, au
dis,
contraire.
mais non, mais si elle voit ses erreurs puis elle les gère puis elle fait ce qu'il faut par rapport à ça, elle est donc parfaite entre guillemets parce que
Ouais, ça
elle agit de
dépend.
ce qui.
C'est
Mais
la
je pense que c'est
définition du parfait.
important. Je pense que c'est important de normaliser qu'on est des humains, on n'est pas des robots. On va en faire des erreurs. Ça fait partie de nous. Puis après ça, mais il faut juste trouver des filtres pour les minimiser au maximum. On en a déjà parlé, je pense, dans
Un
d'autres
autre
podcasts.
balado, oui.
Mais c'est donc pas la réalité. C'est un mythe important à déconstruire, là. Justement, si tu penses que tu n'en as jamais fait, c'est probablement que tu ne l'as pas vu.
Exact.
Ben,
Ouais.
c'est bien final quand même. Hein? Donnez-vous le droit de vous tromper de temps en temps.
Ben
Faites-le.
oui. Puis, vous n'êtes pas parfait, personne n'est parfait. Puis, même durant toute votre formation en soins infirmiers, oui, vous allez faire des erreurs, il y a des choses que vous allez moins maîtriser. L'objectif, c'est de s'améliorer à chaque fois. Et, puis, il faut toujours penser que tout ce que vous faites comme formation, c'est toujours pour aider, pour le bien d'un patient, pour l'aider dans l'amélioration de sa santé, l'amélioration de sa vie, l'aider dans les derniers moments de sa vie. Donc, on est là. C'est pour ça que c'est beaucoup une profession de relation d'aide,
Oui.
au-delà des méthodes de soins.
Absolument. Ben, merci Sylvie pour ce beau balado. On a déconstruit plusieurs mythes, je pense. Des choses qu'on entend un petit peu partout, qui sont pas nécessairement vraies.
Puis si des fois, si vous nous écoutez puis que vous en avez d'autres mythes, écrivez-nous-les dans les commentaires ou écrivez-nous pour voir, ah ben moi j'aurais aussi ce mythe-là. Donc on verra peut-être une formule numéro 2. Donc si on reçoit d'autres mythes, on pourra essayer de déconstruire tout ça.
Ouais, merci beaucoup. On se dit
Merci à
à
toi.
la
On se voit dans un prochain balado. Bye-bye.
prochaine.
Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Mais pas de panique, on revient très vite avec encore plus d'astuces et d'histoires pour vous accompagner dans votre parcours d'infirmière.
Rappelez-vous, que vous soyez novice ou presque expert, même Florence Nightingale a dû commencer quelque part.
À bientôt et prenez soin de vous comme vous prenez soin des autres.
Si vous avez apprécié cet épisode, pensez à nous laisser un 5 étoiles ou un commentaire. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles. Merci de faire grandir la communauté de
novice à experte.